RFI, les 6 heures à Paris, 5 heures en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à tous.
Dans ce journal, l'IS à Gaza et l'espoir des familles d'otages israéliens à l'annonce hier d'un cessez-le-feu.
Et après 15 mois de guerre, un accord en plusieurs phases a été arraché hier entre le Hamas et les autorités israéliennes. Accord sous la médiation égyptienne, américaine et qatarienne. Il doit prévoir la libération de 33 otages et des centaines de prisonniers palestiniens à partir de dimanche. Les détails à suivre et puis page spéciale juste après ce journal. À suivre également les adieux aux Américains de Joe Biden. Dernier discours hier soir en forme de mise en garde. Il faut respecter les institutions démocratiques. Voilà ce qu'a déclaré le président sortant. En République démocratique du Congo, l'appel des évêques catholiques et des responsables protestants concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays. Ils mettent en garde contre une catastrophe humanitaire aux conséquences incalculables. Et puis en France, les interrogatoires se poursuivent au procès du financement libyen résumé de la campagne présidentielle de 2007. Le tribunal se penchait hier sur les voyages en Libye de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux en 2005.
Les négociations auront été incertaines jusqu'à la toute dernière minute.
Et chaque point de détail aura été pesé, réfléchi, négocié jusqu'à donc l'annonce tant attendue hier soir. Un accord pour un cessez-le-feu à Gaza assorti d'une libération d'otages israéliens et de libération de prisonniers palestiniens. Après 15 mois de guerre, il entrera normalement en vigueur dimanche et c'est aux autorités qatariennes indispensables dans la médiation qui est revenue la primeur de l'annonce. Correspondance régionale, Joseph Clément.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Quand il prend le micro pour annoncer qu'un accord a enfin été trouvé, on sent comme un soulagement chez le Premier ministre du Qatar.
Au terme de l'accord, le Hamas va libérer dans une première phase 33 otages israéliens, dont des civils, des femmes, des enfants, des soldats, comme les personnes blessées. En échange, l'État hébreu libérera des détenus palestiniens, des prisons et centres de détention israéliens.
Accès à l'aide humanitaire pour les Gazaouis, libération de prisonniers, retrait des troupes israéliennes des grands centres urbains, l'accord semble complet. Mais quelle garantie cependant que pendant ces 42 jours de trêve, aucune violation ne soit commise? Mohamed Ben Abderrahim Al-Thani précise.
L'accord prévoit un mécanisme de suivi par trois pays, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Tous seront réunis au Caire. Ces trois pays formeront un groupe dédié au suivi du respect de l'accord. Si tout va bien, tout sera prêt au jour du démarrage de cet accord.
Le vœu du Qatar, c'est que la première phase de 42 jours de cessez-le-feu puisse être prolongé par une deuxième puis une troisième phase avec comme perspective une paix durable dans la région. La prudence restait toutefois de mise à l'issue de la conférence de presse. Le Qatar s'attend en effet à des difficultés dès le démarrage du cessez-le-feu prévu pour dimanche. Joseph Clément, Riyad, RFI.
Et dès hier soir, l'accord a été salué, fêté à Gaza, scène de liesse dans le territoire palestinien supplicié, où plus de 46 000 personnes ont été tuées par l'armée israélienne. Espoir immense aussi pour les proches des otages israéliens, toujours retenus par le Hamas. Nicolas Falaise.
Le 7 octobre 2023, les assaillants palestiniens emmènent 251 otages dans la bande de Gaza. La majorité sont des Israéliens, mais il y a aussi des travailleurs agricoles étrangers, thaïlandais et népalais notamment. Le mois suivant, une trêve d'une semaine permet la libération d'une centaine de ces otages. En échange, Israël libère 240 prisonniers palestiniens. En pleine guerre à Gaza, l'armée israélienne a pu libérer 8 otages en vie. Par erreur, elle a aussi tué 3 otages qui avançaient vers des soldats en agitant un drapeau blanc. À plusieurs reprises, ce sont des dépouilles d'otages retrouvées morts, notamment dans des tunnels qui ont été ramenés en Israël par l'armée. Ces dernières heures, on comptait 98 otages dans la bande de Gaza. 4 d'entre eux y étaient retenus avant le 7 octobre 2023. Sur ces 98 otages, 36 ont été confirmés morts, ce qui ne veut pas dire que tous les autres sont en vie.
Nicolas Falaise, et 33 otages devraient donc être libérés lors de la première phase de cet accord à partir de dimanche, accord encore fragile. Les derniers détails sont encore en cours de finalisation, précise un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui s'est entretenu hier avec Joe Biden et Donald Trump, les remerciant tous deux pour leur aide pour la libération des otages. Accord salué unanimement à l'international. Emmanuel Macron se félicite de cette cet accord qui devrait permettre la libération de deux franco-israéliens retenus à Gaza. Accord qui doit être respecté, les otages libérés, les Gazaouis secourus, une solution politique doit advenir. Voilà ce qu'a déclaré le président français. L'Irak, de son côté, appelle à la nécessité de permettre immédiatement l'arrivée de l'aide humanitaire. Gaza qui continue d'être bombardé par l'armée israélienne. La défense civile du territoire annonce la mort de 20 personnes, dont des frappes survenues après l'annonce de cette trêve.
Et on va revenir en longueur sur cet accord tout au long de la matinée. Juste après ce journal, d'abord à 6h13, RFI reçoit la directrice du Center for Jerusalem Studies et le président du Forum international pour la paix. Leur réaction, leur analyse à suivre. Cet accord qui intervient, et ce n'est pas un hasard, hein, quelques jours avant la cérémonie d'investiture de Donald Trump aux États-Unis.
Et Donald Trump et Joe Biden qui avaient tous deux intérêt à parvenir à cette trêve. Hier, le président sortant, Joe Biden, s'est exprimé, discours d'adieu aux Américains, lors duquel il a évidemment défendu son bilan, mais aussi lancé plusieurs avertissements. À Washington, Guillaume Dodin.
C'est assis à sa table de travail dans le bureau ovale que Joe Biden s'adresse pour la dernière fois aux Américains pour leur rappeler ce qui pour lui constitue l'âme de son pays.
Je sais que croire à l'idée de l'Amérique, c'est respecter les institutions qui dirigent une société libre. La présidence, le Congrès, les tribunaux et une presse libre et indépendante.
Et bien qu'il se sache impopulaire, Joe Biden s'attache une dernière fois à défendre son bilan.
Cela prendra du temps de sentir l'impact de tout ce que nous avons fait ensemble. Mais les graines sont semées et elles grandiront et fleuriront au cours des décennies à venir.
Comme le président Eisenhower dans son discours d'adieu en son temps, Joe Biden met en garde contre les dangers qu'il perçoit, la constitution d'une oligarchie du pouvoir et de l'argent, le poids de ce qu'il appelle le complexe techno-industriel et l'avalanche de fausses informations.
Nous devons faire rendre des comptes aux médias sociaux pour protéger nos enfants, nos familles et notre démocratie de l'abus de pouvoir.
Enfin, avant de remercier ses proches, Joe Biden demande une réforme de la Constitution pour empêcher que le président ne bénéficie d'une immunité dans ses fonctions. C'est précisément ce qu'a obtenu Donald Trump avant de lui succéder. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et notre invité aussi ce matin sur RFI 7h15, Thierry Breton, ancien commissaire européen, il répondra aux questions d'Arnaud Pontus et s'exprimera notamment sur l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Joe Biden, on en parlait, qui a décidé par ailleurs mardi de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme, décision qui n'est pas du goût de Marco Rubio. Le futur chef de la diplomatie américaine était auditionné il y a quelques heures au Sénat, comme le veut la tradition, avant sa nomination. Fils d'immigrés cubains opposés au régime castriste, il a estimé que le pays correspondait aux critères pour être désigné comme État soutenant le terrorisme, sans toutefois affirmer ouvertement s'il annulerait ou pas la décision de l'administration précédente.
Direction à présent la République démocratique du Congo avec cet appel des évêques catholiques et des responsables protestants.
Ils ont lancé hier l'initiative d'un pacte dit social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs, mettant en garde notamment contre une catastrophe humanitaire aux conséquences incalculables. Écoutez Monseigneur Donatien Tcholé, secrétaire général de l'épiscopat congolais, la CENCO.
Pourquoi maintenant? C'est simplement parce que le constat est très amer au regard de ce qui se passe dans le pays, particulièrement à l'Est. 30 ans après, on voit les limites de la guerre, on voit les limites de la diplomatie. Traitant sur terrain, mais c'est une situation humanitaire indescriptible. Nous voulons amener la majorité des Congolais à comprendre que la priorité aujourd'hui, c'est la paix. La paix dans notre pays, la paix dans la sous-région. Ce n'est pas peu de choses de mettre les gens ensemble pour qu'ils se parlent, pour qu'ils se regardent en face. Ce serait intéressant qu'on arrive à des concertations nationales avec des compatriotes congolais qui ont pris les armes pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vraiment, comme chrétien, comme africain, trouver d'autres alternatives. La CENCO et le CC prend l'engagement de faire des plaidoyers au niveau des principaux acteurs sociopolitiques. Nous pensons que cette pierre que les deux églises veulent apporter avec tous ceux qui vont adhérer, ça peut être une solution.
Monseigneur Donatien Tcholé, propos recueillis par Pascal Moulégois sur le terrain dans l'est de la RDC. Les organisations humanitaires s'inquiètent-elles du nombre croissant de blessés de guerre causés par les combats entre le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés.
RFI 6h10 à Paris. En France, les interrogatoires se poursuivent au procès du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007.
La campagne de Nicolas Sarkozy au cœur de ce procès, l'hypothèse d'un pacte de corruption nouée fin 2005 entre l'ex-président et Muammar Kadhafi et ses éventuelles contreparties diplomatiques, économiques et juridiques. Hier, le tribunal s'est penché sur les voyages en Libye à l'automne 2005 de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et de Claude Guéant et Brice Hortefeux, Laura Martel, deux témoins en fonction diplomatique à Tripoli à l'époque ont été entendus.
Jean-Luc Sibiud, ex-ambassadeur, n'a aujourd'hui aucun souvenir de la visite de Claude Guéant. Une visite censée préparer celle de Nicolas Sarkozy, considérée elle comme très importante par les Libyens, conscients d'avoir affaire à un potentiel futur président, souligne-t-il. À cette occasion, un bref aparté aurait eu lieu entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi sous la tente, selon l'autre témoin du jour, le commissaire. Mais l'ex-ambassadeur affirme lui que les deux hommes se seraient éloignés une trentaine de minutes pour un entretien exclusivement privé avec leurs interprètes. À l'époque, il n'avait pu en savoir plus, la traductrice française lui opposant le secret professionnel. Pour l'accusation, c'est là qu'aurait été noué le pacte de corruption. Parmi les contreparties envisagées, le parquet pointe le sort juridique d'Abdallah Senoussi, ex-patron des renseignements condamné à perpétuité en France pour l'attentat contre le DC-10 du TA. Or, et Claude Guéant et Brice Hortefeux ont reconnu l'avoir rencontré lors de leur visite. Ils affirment avoir été piégés. Mais il semble difficile pour un ministre d'ignorer la situation de M. Senoussi, relève un juge. Oui, surtout quand on va en Libye, complète l'ambassadeur dans un sourire. Le diplomate souligne d'ailleurs que pour lui, la visite de Brice Hortefeux n'était pas banale et l'avait d'autant plus surpris que l'intérêt des Libyens pour les collectivités locales, le portefeuille de Brice Hortefeux, était très limité, remarque-t-il.
Et Laura Martel.
Enfin, c'est une des bonnes surprises folk-rock de ce début d'année. Jeanne, on parle musique à présent.
Elle s'appelle Flora Hibert, l'autrice, compositrice et interprète franco-britannique installée à Paris depuis une dizaine d'années, sort un premier album très remarqué et que nous présente ce matin Isabelle Chenu. Overcoat to tell you how deep the night is. Coup de cœur pour ce premier album intitulé Swirl comme tourbillon et coup de chapeau pour cette chanteuse au beau timbre grave. Flora Hibert, 29 ans, s'accompagne à la guitare. Cette franco-britannique, également traductrice d'essais en histoire de l'art, est une virtuose qui joue avec les mots, écrit des textes un peu surréalistes. Elle signe aujourd'hui sur le label new-yorkais 2220. Ce premier album, enregistré aux États-Unis dans le Wisconsin à Eau Claire, sous la houlette du producteur Shane Leonard, a permis à Flora Hibert de créer 11 ballades en immersion pendant un mois avec des musiciens du cru, donnant à son album des tonalités folk-rock indé et parfois même country.
I still like the train. Qui sera le choix musical d'RFI tout à l'heure à 8h50 heure de Paris. Merci Jeanne Bartoli, vous revenez à 8h. 6h13 à Paris, 7h13 à Gaza et Tel Aviv, RFI Matin. Bienvenue à vous, on est ensemble jusqu'à 9h et aujourd'hui matinée un peu bouleversée après cet accord annoncé hier après 15 mois d'une guerre sanglante entre Israël et le Hamas. Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur dimanche, assorti d'une libération d'otages et de prisonniers palestiniens et de négociations. Ensuite, pour une sortie définitive de la guerre, c'est ainsi que ça a été présenté. La joie hier s'est exprimée dans l'enclave palestinienne. En Israël aussi, même si l'inquiétude persiste et que des questions subsistent. Pour la suite, on y revient dans nos journaux avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux permanents et nos invités dans un instant. À suivre aussi ce matin, invité exceptionnel sur RFI à 7h15, l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Il répondra aux questions d'Arnaud Pontus. Également ce matin, nouveau témoignage dans ce dossier qu'on vous révélait hier sur notre antenne. Ces ressortissants camerounais envoyés contre leur gré sur le front en Ukraine côté russe. La femme d'un de ses ressortissants est notre invitée ce matin, vous l'entendrez à 7h44. Et puis on continue aussi de parler des incendies meurtriers toujours en cours aux États-Unis, la région de Los Angeles. Notre envoyé spécial sur place, Harim Lipold, nous en parlera. Et puis le dernier discours de Joe Biden, c'est notre dossier du 8h aujourd'hui. Le Qatar et les États-Unis ont donc officialisé hier soir cet accord qui a déjà tout d'historique, inconclu après quasiment 500 jours d'une guerre sanglante dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, qui a entraîné la mort de plus de 46 000 Palestiniens, le déplacement d'au moins 2 millions de personnes, soit presque la totalité de la population de l'enclave palestinienne, le tout après l'attaque sanglante du 7 octobre menée par le Hamas sur le sol israélien, lors de laquelle 1200 personnes sont mortes et 251 personnes ont été enlevées. Cet accord, donc en trois phases, prévoit notamment un cessez-le-feu, le retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza, la libération de 33 otages aux mains du Hamas, celle de centaines de prisonniers palestiniens, le transit de l'aide humanitaire et des négociations supplémentaires. Ensuite, on en parle ce matin avec nos invités, Houda Imam Husseini et Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix, ancien conseiller d'Itzhak Rabin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Alors hier, la joie s'est exprimée à Gaza, à l'annonce de cet accord. Des milliers de Palestiniens ont salué l'annonce de ce cessez-le-feu à venir. Des rassemblements de joie ont aussi été observés en Israël, à Tel Aviv notamment. Ofer Bronstein, qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette joie qui s'exprime ?
Mes sentiments, moi, sont très mitigés. Parce que je me dis, c'est très peu, très tard, cette guerre à Gaza. Et ce cessez-le-feu devait être mis sur place depuis très longtemps pour ne pas voir la souffrance des Gazaouis et continuer. Les otages, eux, auraient dû être libérés depuis très longtemps pour ne pas voir l'agonie des parents, la souffrance terrible des parents de ne pas savoir où sont leurs enfants, dans quel état ils sont, et de ne pas les voir de retour à la maison. Donc ça a été de la torture pour la population gazaoui et pour les familles des otages, ainsi que pour les familles des soldats israéliens qui dont 1000 ont péri aussi dans cette guerre qui devait s'arrêter depuis très longtemps. Donc ça, c'est pour le côté négatif. Le côté positif, je me réjouis pour les Gazaouis qu'il n'y aura plus de bombardements, que la guerre s'arrête. Ils vont pouvoir petit à petit recevoir l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Et cet accord stipule qu'il y aura 700 camions d'aide humanitaire qui rentreront tous les jours à Gaza. J'espère que ce sera le cas. Et de plus tard, recommencer à se reconstruire. Du côté israélien, bien entendu, les familles, malheureusement, ce ne sera pas toutes les familles, mais le peu de familles qui vont revoir leurs enfants, leurs maris, leurs frères, leurs sœurs, leurs filles en vie. Je suis ravi pour eux.
Mais Ofer Bronstein, l'accord doit entrer en vigueur dimanche, donc avec un cessez-le-feu dimanche. Normalement, sachant qu'hier soir encore il y a eu 20 morts à Gaza et Khan Younes après des frappes israéliennes, est-ce qu'il y a un risque que d'ici dimanche les termes changent, que finalement le cessez-le-feu n'entre pas en vigueur ?
Oui, bien sûr. Déjà entre hier et aujourd'hui, un des éléments qui a été apparemment modifié selon les informations que je reçois. Il est important, mais je suis persuadé qu'ils vont pouvoir le contourner et le résoudre. Parce que dans l'accord, les prisonniers palestiniens, au nombre de 2700 qui devaient être libérés, Israël avait un droit de veto sur le nom de certains. Hier, le Hamas a fait savoir qu'il ne voulait pas qu'Israël ait un droit de veto, qu'ils ont une liste, et c'est que cette liste-là sont des prisonniers libérés. Je pense qu'un arrangement sera trouvé et ces prochaines heures pour surmonter cette difficulté. Mais ce qui prouve qu'il y a encore des choses qui sont fragiles, imaginez-vous un attentat à Tel Aviv, une fusée qui explose dans une ville israélienne qui fait plusieurs morts, un bombardement à Gaza qui fait beaucoup de morts, et tout peut être remis en question. Donc moi, j'espère que les deux belligérants, avec le regard de la communauté internationale, seront très, très, très vigilants, très prudents, ne rien faire pour que cet accord puisse se préparer au prochain stage.
La prudence est de mise, Ofer Bronstein, c'est ce que vous nous dites. D'après vous, qui sort gagnant de cet accord ?
Tout le monde est perdant de cet accord. Vous savez, cette histoire de dire On a gagné la guerre, on a gagné la guerre, c'est aberrant. Israël est un pays blessé, meurtri, qui s'étale. L'heure d'Israël s'est arrêtée le 7 octobre. En Israël, on est préoccupé que par la guerre, que par les otages, que par les cimetières, que par les blessures qu'Israël a connues. Rien d'autre n'existe en Israël depuis déjà plus d'un an et demi. À Gaza, je ne dois pas répéter, l'image est d'une apocalyptique. Gaza était dans certains endroits à 90% détruits, dans d'autres à 50% détruits, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, une catastrophe. Donc je ne vois pas quelle pourrait être la victoire dans ce genre d'État. Malgré ça, ça c'est le cynisme politique des uns et des autres, les deux vont crier victoire, les deux crient déjà victoire. Vous savez, des victoires comme ça, j'espère que l'humanité n'en aura pas besoin. C'est une défaite totale pour les uns et pour les autres. Et le pire, c'est que plus de poison s'est inculqué dans le sang des Israéliens et des Palestiniens, la reprise du dialogue, la reprise de la route de la saison, de la raison, sera encore plus difficile. Donc vraiment, cette guerre a été une catastrophe.
Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a joué ces derniers jours pour que l'accord soit officialisé, soit rejoint?
À mon avis, deux choses. Regardez, la pression de l'opinion publique israélienne était très, très importante. Des milliers d'Israéliens étaient tous les jours, au Parlement, dans les rues, faisaient pression directement sur les politiques, allaient les visiter dans leur maison. Pour les Israéliens, même ceux de droite, même si ceux qui soutiennent Netanyahou, l'histoire des réfugiés était fondamentale. Un pays qui ne peut pas protéger ses citoyens est un pays qui est en défaillance. Donc les pressions étaient très, très, très importantes du côté israélien. Du côté palestinien, il ne faut pas vous dire la catastrophe, les victimes quotidiennes, les milliers de blessés, le manque de moyens pour les soigner, le manque de vivres, le manque d'aide humanitaire. Donc je veux espérer que les leaders du Hamas étaient sensibles quand même à la souffrance terrible de leurs frères et de leurs sœurs. Je ne suis pas persuadé, parce que s'ils l'avaient été, ils n'auraient pas pris l'initiative de commettre cet attentat du 7 octobre. Mais j'espère qu'aujourd'hui, ils le sont. Ils comprennent aussi que, méditerranéen, ils ont été complètement laminés, qu'ils ont besoin de temps pour respirer, pour se réorganiser, pour voir où ils vont. En plus, ce qui a été important aussi, c'est les pressions qui ont été effectuées sur les uns et les autres à l'international. Je sais que le président Macron, au début, s'y était attaché quotidiennement, avec tous les acteurs de la région, que ce soit la Turquie, l'Égypte, le Qatar, les Américains s'y étaient attachés, les Égyptiens bien entendu étaient présents, les Qataris, on peut dire ce qu'on veut du Qatar, mais ils ont joué un rôle très important dans cette histoire, parce qu'ils avaient l'oreille et la confiance des uns.
Et ils suivront d'ailleurs la mise en œuvre de cet accord aux côtés des autres médiateurs. Alors cet accord prévoit donc trois phases avec beaucoup de conditions pour que ces phases puissent se mettre en œuvre. Joe Biden a parlé hier de la fin définitive de la guerre qui ne sera discutée qu'au cours de la première phase si celle-ci est respectée. Pour vous, parler de fin définitive de cette guerre, c'est réaliste maintenant? Est-ce que c'est envisageable?
Permettez-moi une remarque. J'entends dire ces derniers jours des commentateurs que cet accord a été conclu à quelques jours de la rentrée à la Maison Blanche de Donald Trump comme un cadeau pour le nouveau président américain. Je trouve ça d'un cynisme inacceptable. Si c'est le cas, je trouve ça terrible que des leaders politiques fassent un accord avec un pays étranger juste pour faire plaisir ou pour faire un cadeau à un nouveau président, c'est impensable. J'espère que ce n'est pas le cas. Maintenant, quant à Joe Biden, permettez-moi aussi une remarque. Son discours hier était pathétique. C'est vrai que les Américains ont fait des efforts pour calmer le jeu, mais quels efforts? Les États-Unis d'Amérique, s'ils avaient voulu que la guerre s'arrête, elle se serait arrêtée. Mais les États-Unis, s'ils avaient voulu que les otages soient libérés, ils se seraient libérés.
Mais pour vous, Ofer Bronstein, rapidement, est-ce que la fin de la guerre est envisageable?
Je crois que oui. Et là, je vois que le rôle...
Là, on a passé une phase, d'après vous.
Oui, on a passé une phase. Il n'y aura pas de feu entre Israéliens et Palestiniens maintenant pendant presque deux mois. Ça permettra aux uns et aux autres de réfléchir et de respirer. Je sais que le nouveau président américain Donald Trump est très clair à ce sujet-là. il veut rentrer sans guerre, sans bataille, sans problème. Lui, il veut montrer qu'au Moyen-Orient, c'est l'homme fort et il sait quoi faire. J'espère, encore une fois, que l'Europe et la France sauront prendre l'initiative, enfin, de jouer le rôle qu'ils peuvent jouer avec les leviers qu'ils ont pour reconstruire Gaza, pour rapprocher Israéliens et Palestiniens et pour aller vers...
Et mettre en œuvre cet accord et donc peut-être la fin de la guerre. Merci beaucoup, Ofer Bronstein. Je rappelle que vous êtes président du Forum international pour la paix. Merci d'avoir répondu à nos questions. Allez, juste avant le journal Afrique, notre rendez-vous, la Une en Asie. On a évidemment beaucoup parlé cette semaine de l'arrivée en fanfare de Charlie Dalin, premier de la course du Vendée Globe. Bonjour Carlotta Morteo. Alors, vous nous dites, Carlotta, que beaucoup de skippers sont encore en route sur cette course. C'est notamment le cas du navigateur chinois Tsing Kunsu, le premier navigateur chinois à participer à cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.
Oui, Tsing Kunsu est un pionnier de la voile pour son pays. L'un des très rares navigateurs chinois professionnels. Il a déjà relevé plusieurs défis. La navigation en solitaire autour de la mer de Chine, le tour du monde à la voile avec sa femme, la mini transat. Des performances d'autant plus remarquables que Tsing Kunsu a un handicap. À 12 ans, il a perdu son avant-bras gauche dans un accident avec des feux d'artifice. Rien ne le prédestinait à la voile. Ce fils d'agriculteur est né dans les montagnes du Shandong, à l'est de la Chine, très loin de la mer. Il a été sélectionné dans une équipe d'athlétisme quand le pays cherchait des athlètes pour les Jeux Olympiques. Jing Songsu est alors sélectionné pour faire partie de l'équipe paralympique chinoise de voile, une discipline inexistante en Chine jusque-là. Lui qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau, il ne savait même pas nager. Et bien 3 ans plus tard, il arrive à la 10e place avec l'équipe paralympique chinoise aux Jeux de Pékin de 2008. L'équipe est dissoute puisque la Chine décide de se concentrer sur des sports aquatiques plus pourvoyeurs de médailles. Mais lui, il a attrapé le virus et outre ses défis sportifs, il va ouvrir son école de voile à Sanya, où il devient moniteur de voile.
Et faire le Vendée Globe, quand on est chinois, Carlotta, ça n'a rien d'évident, hein.
Et oui, parce que pour participer à cette course, qui est sans doute la plus exigeante et la plus dangereuse au monde, il faut déjà pouvoir se payer un bateau de classe IMOCA. Et pour cela, il faut des sponsors, mais aussi des structures de formation à la course au large qui accompagnent les navigateurs dans leur préparation. Il faut des chantiers navals spécialisés dans ce type de bateau, etc. Et grosso modo, ces structures, elles n'existent qu'en France ou dans le monde anglo-saxon. Résultat, en 2015, Tsing Kunsu vend sa maison, déménage en Bretagne et réussit à réunir assez d'argent pour s'acheter un vieux monocoque âgé de 17 ans sur lequel il navigue aujourd'hui. D'ailleurs, il a le plus petit budget de tous les coureurs du Vendée Globe. Il s'est formé tout seul avec sa femme en se lançant dans plusieurs transatlantiques ces dernières années pour se tester. Bref, ça a été un véritable parcours du combattant pour lui.
Et Tsing Kunsu est devenu un véritable ambassadeur de la voile en Chine. Carlotta, 130 millions de personnes suivent ses aventures sur Weibo, le principal réseau social chinois.
Oui, tout au long de la course, il poste beaucoup de vidéos, de photos, il partage ses coups durs, son quotidien. Il est 31e sur 34 au classement, mais il incarne le rêve de l'aventure au large. Et c'est une bonne nouvelle pour la voile chinoise qui revient vraiment de très loin, puisque depuis la dynastie des Ming et l'extraordinaire voyage de l'explorateur chinois Zheng He, qui avait voyagé jusqu'en Inde et en Afrique du Sud, depuis le 16e siècle, donc, l'accès à la mer, à la navigation et au port était très restreint en Chine, et ce jusque dans les années 1980, avec les politiques d'ouverture de Deng Xiaoping, le successeur de Mao Zedong. Donc, jusqu'à très récemment, il n'y avait tout simplement pas de culture de la voile, ni de véritable industrie navale d'ailleurs, qui fasse concurrence aux industriels européens. Avec Tsing Kunsu, il y a l'espoir que la voile se développe en Chine, devienne une discipline plus populaire. Le potentiel est immense, des marinas flambant neufs ont vu le jour ces dernières années, il y a de plus en plus d'événements liés au nautisme, et on sent que l'intérêt est grandissant, chez les jeunes notamment, et ce sont eux que Tsing Kunsu veut inspirer, justement pour leur montrer qu'avec courage et persévérance, tous les rêves peuvent se réaliser.
Carlotta Morteo avec nous pour la Une en Asie sur RFI. Vous restez avec nous dans une minute, l'information africaine.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
regard croisé sur la cardiologie en Afrique subsaharienne.
Demain,
émission Questions de femmes, nous parlons de la fatigue comme symptôme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, De vive voix, Pascal Paradou.
Comme d'autres artistes, Mina Cavani a dû quitter son pays pour être libre. Comédienne, elle raconte sur scène son départ de Téhéran, la douleur de l'exil et d'une vie suspendue. Elle écrit aussi un récit, Dérangé, l'exil au bord des lèvres. L'exil qui l'a fait devenir, malgré elle, une autre femme.
De vive voix, avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.